Archéologue du futur, poète hexadécimal, pionnier du digital, je vous salue bien bas, je vous dis bienvenue dans Médiatique, votre émission dédiée au TIC que vous retrouvez, vous le savez maintenant, chaque jeudi de 18h à 19h sur les ondes de Radio Alger Chaîne 3. Je suis Redamel Lassel et en compagnie de Lamine B, derrière la vitre et de mes chroniqueurs de talent, nous avons tenté pendant une heure de temps de faire et défaire l'actualité en matière d'innovation, de clubs étudiants, de recherche scientifique et de nouvelles tendances. Et aujourd'hui, nous vous proposons une émission spéciale Journée mondiale de la radio, chapeautée par notre chroniqueuse Lina Mazhoud, avec en guise d'invité Mesdames Romaïssa Issad de l'association Félix Artis et Madame Tassadit Acheroufen, project manager chez Le Pan Environnement. Et tout ça, bien d'autres choses encore, c'est dans Médiatique, l'émission qui vous emmène à la découverte de la Terra Numérica juste après ceci. We'll be right back.
Donc Linda, viens dire un mot pour ma tête.
Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-6-Alger-Chin-3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte.
Il est 18h10 sur les ondes de radio à l'échin 3. Reda Menassel derrière son fidèle micro pour vous servir, accompagné de Lemine B derrière la vitre et de notre chroniqueuse spécialiste en écologie, Lina Mezhoud. Bonsoir.
Bonsoir Reda, bonsoir nos chers auditeurs, bonsoir nos chers invités.
Proclamé en 2011 par les États membres de l'UNESCO et adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies en 2012, le 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Et la radio, bien évidemment, a un rôle très très important pour tout ce qui est sensibilisation par rapport à l'environnement, n'est-ce pas, Lina?
Tout à fait. Et aujourd'hui, on profite de cette journée mondiale pour sensibiliser à la protection de l'environnement. Je pense que la radio, c'est l'endroit parfait pour sensibiliser, pour atteindre directement le citoyen algérien. Aujourd'hui, en Algérie, on est plus à l'étape de la sensibilisation, ce qui est très importante, de l'éducation par rapport à la cause environnementale.
Tout à fait.
Et ce pourquoi nous avons aujourd'hui des invités de qualité avec qui on pourra débattre et sensibiliser justement autour de cette cause.
En l'occurrence, on a le plaisir d'avoir avec nous Madame Romeïssa Issaed. Marhaba.
Merci, je vous remercie pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Et Madame Tassadit Acheroufen.
Bonjour et je vous remercie aussi pour l'invitation.
Avec grand plaisir. Lina,
alors,
on commence par quoi? Je sais que tu as voulu diviser l'émission en plusieurs volets tant le sujet est vaste.
Exactement. Aujourd'hui, on a différents invités qui viennent de différents, on va dire, environnements, sans vouloir faire de jeu de mots.
Ah, mais je suis admiratif et j'applaudis derrière mon micro.
On commence par peut-être le milieu associatif avec Romeïssa. Donc, je dirais aujourd'hui, d'un point de vue association, quels seraient un peu les enjeux environnementaux dans le contexte algérien?
En 2025, évidemment.
En fait, premièrement, merci encore pour l'invitation. Pour nous, en fait, Félix Artis del Jazair, je suis très fière d'en faire partie déjà.
Alors, que veut dire le nom déjà? Tiens. C'est un mot qui interpelle tout de suite.
Oui, tout à fait, parce que c'est un mot en fait composé. Mm-hmm. C'est un mot espagnol qui veut dire sonna sa'ada.
D'accord.
Oui, les artisans de bonheur. Voilà, tout à fait.
En fait. D'ailleurs, depuis que vous êtes là, on est tout de suite un peu plus heureux, hein.
Oui, elle nous donne le sourire.
C'est magique, ça fonctionne.
Merci, je vous remercie. Encore une fois. En fait, pour nous, les plus grands défis sont la gestion des déchets, le tri des déchets, la pollution de l'air, de l'eau aussi. C'est vraiment.
En Algérie, la pollution de l'air, hein, c'est-à-dire que comparativement aux pays industrialisés, on se pose quand même là.
Oui, tout D'accord. à fait. Parce qu'on a, en fait, beaucoup de personnes qui vivent à Alger, plus que d'autres wilayas, c'est déjà.
Donc, dans les grandes villes, en fait, tout le monde prend la voiture pour schématiser.
Exactement.
Donc, ça pollue.
Exactement. C'est un problème. Malheureusement, c'est un très grand problème. Aussi, on a la perte de la biodiversité.
C'est-à-dire, ça se traduit comment?
En fait, il y a beaucoup de constructions
un peu partout sur les terres agricoles.
Exactement.
Qui sont pas forcément acquises.
Ce qui est très mauvais. En fait, nous voyons que ces problèmes impactent directement sur notre santé et l'équilibre écologique.
Et sur l'urbanité, bien évidemment, notre capacité à vivre ensemble. Lina.
Et aujourd'hui, en tant que personne, qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le milieu associatif et plus précisément dans la cause environnementale?
C'est vrai, l'étincelle de votre militantisme, de votre engagement. D'où ça vient?
Ah oui, oui. En fait, j'ai une petite histoire avec ça.
D'accord.
Depuis mon enfance, j'ai toujours eu une forte connexion avec l'environnement. J'ai même été formée par l'école d'environnement d'Ardounia à Beblouet. Donc, j'étais en école primaire. J'ai suivi plusieurs formations. J'ai même eu la chance de faire une foire. J'ai participé à la foire de l'enfant en 2009, là où j'ai exposé mes produits recyclés.
D'accord.
Oui.
C'était quel type de produit? Qu'est-ce que vous recycliez?
Alors, on était 5 personnes. On était choisis par notre professeur à l'époque.
D'accord.
Parce qu'on était les 5 les plus brillants, on peut dire. Donc, j'ai suivi.
Elle était enfant en 2009. Hein. Merci pour le coup de vieux généralisé.
Parce que maintenant.
Les cheveux blancs ont explosé d'un coup. Merci.
J'étais enfant. En fait, j'étais en 4e année primaire.
On fera pas le calcul mental. Oui. Voilà. Voilà. La torture, là, voilà.
Pas deviner.
Voilà. Donc la formation, elle m'a permis de développer une passion pour le recyclage. On recyclait vraiment des bouteilles de détergents.
D'accord.
Même des feuilles qu'on a, ils ont été déjà utilisés, donc on les coupait.
Pour en faire quoi?
Des animaux. Il y avait même une histoire vraiment les. Il y avait un ministre qui passait à la foire.
D'accord.
Et comme j'étais petite, je parlais trop. Ma prof, elle m'a dit, vas-y, ramène le ministre. Après, j'étais petite, j'ai dit, monsieur, venez voir notre...
Et il est venu.
Il est venu. Il a vraiment adoré. Hein. Adoré. Je vous jure, il a vraiment adoré. C'était des animaux.
D'accord.
Même on a fait des bouteilles en forme de fleurs, etc. Mm-hmm. C'était vraiment magnifique. Oui. C'était là, c'est le début.
D'accord, très bien. Et aujourd'hui, quelles sont les actions concrètes que vous faites, pardon.
Au-delà de la sensibilisation, voilà. Si vous aviez comme ça Khatib Souleymane une baguette magique, vous commenceriez par quoi après cet audit environnemental?
L'éducation déjà.
Comment? Où? L'école, les associations,
les formations déjà. Je trouve que c'est important. Déjà, il faut faire au moins une heure par semaine, faire la plantation, éduquer les enfants comment protéger l'arbre. D'accord. Depuis qu'il est petit jusqu'à grandit. En plus, je pense que aussi ce qui est important, c'est faire des petites formations comme ça et comme des concours pour les enfants, comme ça, pour les inciter à faire.
Et est-ce que, c'est une question, je vais mettre les pieds dans les plats, c'est une question provocatrice, est-ce que ça fonctionne? Moi, dans mon quartier, par exemple, on a cotisé, on a acheté des bacs pour les poubelles et les gens continuent toujours à jeter à côté de la poubelle. Comment est-ce qu'on change ce mindset que tout le monde vit comme ça au quotidien? Si à l'école, évidemment, on informe, on essaie d'inculquer cet amour de la nature, et si le gamin, lorsqu'il rentre chez lui, il va voir ce triste spectacle, ça va complètement détricoter ce qu'il a appris à l'école.
Tout à fait, en fait, c'est un problème. Là, ça pose problème quand même. Hein. Mais par contre, si c'était genre... tous les jours et tout, je pense
c'est
que
la répétition, vous voilà, pensez la, que la répétition, voilà, la répétition ça permet elle, d'inculquer oui. ses valeurs
exactement,
et ses habitudes
et surtout commencer très tôt, donc commencer par les enfants, si on commence cette éducation très très tôt, je dis pas qu'aujourd'hui pour les anciennes générations c'est perdu, non la balle n'est pas perdue, d'ailleurs aujourd'hui pourquoi on organise cette émission à la radio,
ouais.
C'est justement pour sensibiliser et éduquer une certaine tranche d'âge on va dire, et ensuite voilà, c'est important de le faire avec les enfants, c'est planter une petite graine, et donc c'est ça ce que vous faites justement Félix Cartis, c'est qu'ils font des formations pour enfants, ils font des tournées autour des écoles, donc vous avez
et les
récemment...
écoles jouent le jeu.
Oui,
elles ouvrent leurs portes et tout.
Oui,
ah bah
oui,
ça
oui.
C'est bien, c'est encouragé.
On a vraiment un encouragement énorme de la part des professeurs.
Parce qu'il fut un temps, il y a quelques années, il y a 5-6 ans, c'était extrêmement compliqué. Il y avait des initiatives comme ça, mais pour pouvoir avoir le concours du système éducatif, c'était pas gagné du tout. Je suis très très heureux que ça ait changé.
Heureusement, alhamdoulilah, exactement. Même quand on cherche des autorisations de la part des APC...
D'accord, oui.
On a vraiment reçu beaucoup d'aides.
Eh ben, pourvu que ça dure, ça fait plaisir. Lina, on s'intéresse à notre seconde invitée.
Ah oui, à Tess Hadid, qui est, elle, spécialisée dans la gestion des déchets, plus spécialement les déchets spéciaux dangereux. Ouais. Comme nous sommes aujourd'hui dans la sensibilisation, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous expliquer c'est quoi un déchet spécial dangereux?
Voilà, la définition académique. Qu'est-ce qu'un déchet dangereux?
Alors, un déchet dangereux, déjà, c'est toute une matière qui a une nocivité sur l'environnement.
D'accord.
On va dire environnement terre ou bien environnement, en fait, rapprochant à tout ce qui est sol, eau et air
tout
aussi.
Tout ce qui a un impact sur l'écosystème.
Voilà, impact. Voilà, quel que soit direct ou bien indirect.
Et ça inclut les déchets médicaux, ça inclut les déchets toxiques.
Oui, effectivement. Alors
pour radioactifs, les... soyons.
Oui,
voilà.
Effectivement. Alors pour la classification des déchets selon la réglementation algérienne, nous avons déjà trois catégories de déchets. Nous avons les déchets ménagers assimilés,
d'accord,
qui sont pas nocifs à l'environnement. On va dire c'est des déchets qui peuvent être enfouis dans les centres d'enfouissement technique.
C'est-à-dire grosso modo nos déchets du quotidien.
Voilà, c'est les déchets ménagers. Car en fait pour les centres d'enfouissement technique, on n'a pas seulement enfuir un déchet, mais aussi trier tout ce qui est matière recyclable et valorisable. Après, nous avons la partie la plus dangereuse, les houas, le déchet spéciaux. Après, nous avons le déchet spéciaux dangereux. Pour le déchet spéciaux, c'est un déchet contaminé, mais il peut pas en fait transmettre, il peut pas transmettre son nocivité à l'environnement. Pour tout ce qui est déchets spéciaux dangereux, c'est tout ce qui est déchets qui peut être nocif ou bien explosif, etc.
Tout ce qui vient des usines, des zones industrielles.
Voilà, tout ce qui est boue,
et justement,
etc.
Comme l'a mentionné Tassadit, la réglementation algérienne est assez stricte par rapport aux déchets surtout spéciaux dangereux. Il y a toute une nomenclature, des codes à suivre pour définir justement ces déchets. Et quelles sont les actions aujourd'hui, la réglementation algérienne pour les industriels qui génèrent des déchets spéciaux dangereux, ils sont obligés de faire quoi? Est-ce qu'ils sont obligés à traiter ces déchets selon la réglementation algérienne?
Effectivement, selon la réglementation algérienne, c'est primordial de traiter ces déchets. Et en fait, il y a même un organisme dont chaque entreprise fait partie de l'hygiène, sécurité et environnementale, qui vont être en fait faire un inventaire pour les déchets de chaque industrie, agroalimentaire, pharmaceutique ou autre. Voilà. Et ces déchets vont être classés selon le décret exécutif, selon leur code. Et cette déclaration-là doit être déposée au niveau du ministère de l'Environnement. Où le ministère aussi doit en fait avoir des inspections périodiques au niveau de ces industries pour vérifier qu'il y a quand même un système de traitement effectué au niveau de ces industries ou bien dans des centres spécialisés pour le traitement.
Alors la question qui fâche évidemment, est-ce que c'est suivi? Est-ce que ça se fait? Moi personnellement, j'aurais tendance à dire non quand je vois mon environnement immédiat.
Oui, alors, je vais vous répondre clairement et avec toute transparence. Moi, j'ai commencé le parcours de traitement des déchets depuis 2020.
D'accord.
Et depuis 5 ans, je suis dans ce domaine et je vais donner quand même une réponse un peu optimiste, qu'il y a quand même une certaine évolution dans ce domaine. Car quand moi, j'ai commencé en 2020, c'était vraiment très critique. Il y avait déjà des problématiques quand on travaillait avec certaines industries pour le traitement. C'était avec quand même une certaine difficulté. Si on parle de sensibilisation pour les enfants, on va pas uniquement se stopper ici, car il faut se sensibiliser la grande catégorie qui est les employés et les industries, etc.
Un exemple. J'avais couvert, on va pas évidemment citer l'entreprise, il y a 6-7 ans. C'était un laboratoire qui avait fait une avancée dans la recherche moléculaire, etc., etc. On avait visité l'usine en question, et à la sortie de l'usine, vous aviez une montagne avec le fameux macaron de déchets dangereux, une montagne juste à l'entrée de l'usine, par laquelle 20 journalistes sont passés dans l'indifférence quasi générale. C'est-à-dire que ça faisait carrément partie du paysage.
Oui, malheureusement. Et pourquoi ça? C'est en fait, c'est l'ignorance des fois des industries, car il y a toujours une taxe à payer.
D'accord.
Mais depuis en fait ces dernières années, je vais parler de l'année 2023 à cette année-là, il y a quand même assez d'inspections et de taxes sur lesquelles elles ont été appliquées sur ces entreprises. Ou moi aussi, je ne vais pas citer les noms des entreprises, mais il y a des grandes...
Il vaut mieux, voilà.
Oui, exactement.
Nous avons déjà suffisamment d'ennemis.
Je vais juste vous dire qu'il y a des grandes entreprises polluantes ici en Algérie. Elles sont taxées ces deux dernières années. Alors, elles sont obligées de passer au traitement où notre entreprise aujourd'hui assume le traitement de ces déchets. Voilà.
Très bien, Léda.
Très bien, Tassadit. Sinon, aujourd'hui, les méthodes de traitement de ces déchets spéciaux dangereux, bien, des déchets généralement.
D'accord.
Est-ce que c'est généralement l'incinération et l'enfouissement pour ce type de déchets?
Voilà,
exactement.
La grande tendance en Algérie, ouais. On s'en débarrasse comment de ces déchets?
Voilà, alors malheureusement en Algérie, le traitement des déchets n'est pas vraiment développé, car on doit toujours suivre notre réglementation. Mm-hmm. La réglementation algérienne nous oblige à appliquer deux traitements uniquement. Nous avons l'enfouissement des déchets pour les déchets non dangereux.
Okay.
Je parle des déchets ménagers, etc. Ou bien des déchets inertes qui font partie aussi des déchets ménagers. Après, pour les déchets spéciaux et spéciaux dangereux, ils vont y aller vers une voie d'incinération directement.
Est-ce que l'incinération ne serait pas aussi plus polluante que les déchets eux-mêmes, en fait? Est-ce que le mal ne serait pas pire que le remède?
Je dois parler sur deux modes de traitement uniquement ici en Algérie.
Il y a une espèce d'équation que les ingénieurs en environnement utilisent pour une espèce d'équation hyper complexe pour voir la valeur bénéfice et la valeur perte. Mmh. Est-ce que tu vois à peu près de quoi?
Oui.
Voilà.
Oui,
est-ce que ça c'est appliqué chez nous ou pas du tout?
Alors en Algérie en fait, ça, ils appliquent une méthode. La première méthode, c'est pour avoir l'autorisation d'exploitation.
D'accord.
D'une installation pour une unité d'incinération. Vous avez deux choix. La première, c'est de faire de la co-incinération, mmh, qui veut dire de la valorisation énergétique. En fait, vous avez tant qu'il y a une combustion de déchets, avec cette énergie-là, vous allez alimenter quelque chose.
D'accord. Donc, voilà, je recycle, en fait.
Exactement. Il y a, c'est de la valorisation énergétique. Mmh. Voilà. Où ça existe actuellement en Algérie, où nous avons une seule unité de la co-incinération. C'est la plus grande en Algérie et en Afrique. Et pour la seconde solution, c'est en fait d'avoir un système de filtration pour l'air. Voilà. C'est un système de filtration pour les rejets gazeux de ces unités d'incinération.
Qui sont en fait avant d'être libérées.
Elles sont, voilà, exactement, elles sont contrôlées car il y a aussi des bilans à chaque fois à donner à des organismes spécifiques, l'ONDD, voilà, ici en Algérie, pour vérifier en fait le taux de génération des gaz générés par ces unités d'incinération.
Mesdames, on fait une petite pause, on revient juste après.
حبك حكاية يا أغلى الناس انت رواية كلك إحساس حبك حكاية يا أغلى الناس انت رواية كلك إحساس حبك حكاية انت رواية حبك حكاية مدة وسيني كيفاش ننسى يا ابن البشر انت القمر في ليلة سمر كيفاش ننسى يا ابن البشر انت رواية حبك حكاية
Vous êtes une start-up avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-6-Alger-3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte.
Il est 18h33 sur les ondes de Radio Alger Chaîne 3. Nous continuons notre passionnante conversation à l'occasion de la journée mondiale de la radio avec notre Lina Mezoud nationale. Lina, tu vas nous parler d'une taxe dont j'ignorais absolument l'existence et qui revêt pourtant une importance capitale.
Exactement, c'est une taxe que dans, je pense que 80%, pour ne pas dire 90% des Algériens ne connaissaient pas l'existence. Mmh. Et justement, on se demandait dans notre discussion sur est-ce qu'on avait besoin de justement du principe de pollueur-payeur. Et si on imposait des taxes justement pour que les gens arrêtent de jeter au final? Et c'est là où Tessa Hadid nous a expliqué l'existence d'une taxe qu'on paye tous. Est-ce que tu peux...
Voilà, alors, et surtout, pourquoi est-ce que personne n'a connaissance de cette taxe, hein, voilà.
Alors oui, malheureusement, il y a une grande ignorance de cette taxe-là, car elle est intégrée dans la taxe d'habitation, souvent dans nos factures. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, en fait, il y a quand même une certaine augmentation de vos factures. Après, vous vous posez la question, mais pourquoi je n'ai pas consommé tant d'électricité, moi, etc. Mais en fait, ça revient à la taxe d'habitation, qui est d'une année à une autre.
Donc, c'est prélevé sur ma facture Sonelgaz,
oui,
automatiquement.
Exactement, et qui revient toujours à la taxe d'habitation. Et ça concerne aussi la taxe de gestion des déchets dans les ménages. Voilà. Et dont je vais rebondir dans votre question, pourquoi on trouve toujours des gens qui jettent leurs déchets à ciel ouvert, etc. Car de une, il y a une, il y a pas en fait une certaine sensibilisation par rapport à cette taxe-là. Et de deux, il y a.
Pardon, mais. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus en matière de sensibilisation? Les gens font des émissions de radio, des émissions de télévision. Il y a des associations comme vous qui font des choses formidables. À quel moment?
En fait, c'est le moment que cette taxe-là doit être appliquée sur ces personnes.
C'est-à-dire après la sensibilisation,
oui,
il faut toucher au portefeuille.
Fait, oui, d'accord. Ce qu'on demande aussi aux autorités, en fait, de commencer à appliquer cette taxe-là.
À sévir.
Ouais, exactement, sur les ménages afin de les sensibiliser. Car pour déjà le déchet jeté à ciel ouvert, ça revient, en fait, sa responsabilité revient à la commune. Et pour, car il y a deux types de déchets différents, il y a le déchet ménager et le déchet industriel. Le déchet industriel est beaucoup plus géré par les entreprises privées. Mmh. Et concernant le déchet ménager, qui revient aussi au ménage, revient à la commune et c'est la responsabilité communale qui doit être en fait, qui doit enfin prendre en charge ces déchets-là.
C'est la responsabilité communale, je suis d'accord, mais c'est aussi la responsabilité du citoyen de bien emballer son déchet, de le mettre dans la poubelle. C'est quand même pas sorcier, hein, c'est un acte citoyen, j'allais dire. C'est le béaba d'un individu normal.
Effectivement, car en fait, le tri de déchets ne revient pas uniquement à une mentalité en fait du pays développé ou quoi que ce soit, mais au contraire, moi j'ai trouvé en fait ma grand-mère, et même ma grand-mère aujourd'hui au village, elle trie ses déchets.
Oui.
Même elle se pose la question pourquoi les femmes aujourd'hui, ou bien pourquoi les familles aujourd'hui ne trient pas ses déchets. Elle me pose la question pourquoi en fait mélanger des épluchés en fait de légumes et de fruits avec d'autres boîtes de plastique, etc., alors que c'est un déchet biodégradable et l'autre non. Et aujourd'hui, on doit
en tout cas, ça existait. Les années 80, je suis assez vieux pour m'en souvenir, même si j'étais enfant, ça existait. Hein.
Oui, effectivement.
Moi, je viens d'un quartier, j'y suis toujours, d'un quartier très très populaire. Je vous certifie que les années 80, ce genre de comportement, et qu'on soit ingénieur, qu'on soit médecin, qu'on soit simple fonctionnaire ou chômeur, tout le monde faisait cet acte citoyen.
En fait, ouais, exactement. Moi, je viens pas des années 80, des années 90 par contre.
On a bien compris que j'étais le plus vieux autour de la table. Merci de le rappeler.
Mais en fait, moi, je viens d'un tout petit village de Tizi Ouzou où tous les villageois en fait participent à cette action. C'est tout le monde qui trie ses déchets. On n'a pas un camion en fait qui passe au village. C'est en fait il y a une on n'a pas de déchets déjà spéciaux. Ça veut dire pour ces conteneurs là, il y a des personnes qui viennent les récupérer.
D'accord.
Pour tout ce qui est déchets en fait ménagers, il y a une manière d'enfouissement, etc.
C'est-à-dire que tout le circuit est déjà construit,
oui,
quelque
exactement.
Part.
Exactement, et nous sommes éduqués de cette manière-là. Il y a même, en fait, des fois le recyclage des vieux vêtements, etc., pour fabriquer autre chose. On revient toujours au projet de Lina. Voilà.
et le retour de Hamma Loulou, Lina Mazout.
Exactement, mais au final c'est ça, hein, protéger l'environnement, l'économie circulaire en soi c'est revenir aux sources, c'est ce que l'humain a fait pendant la préhistoire et avant, aujourd'hui on y revient car on est dans un état d'alerte.
Et ce qui est intéressant aussi c'est que pas mal de start-up maintenant, puisqu'on est quand même une émission qui s'intéresse au digital, pas mal de start-up créent des solutions pour faciliter justement ce tri des déchets. Et pour, je pense notamment à notre ami de Le Cycli, hein, c'est une application de cartographie, c'est-à-dire bonjour, ce déchet est à tel endroit, vous pouvez aller le récupérer.
Voilà. Exactement, voilà. En fait, c'est ce déchet, vous pouvez déposer vos déchets triés à cet endroit-là et ensuite le recycleur, lui, pourra justement retrouver ses déchets à cet endroit-là.
Qui est en relation avec une association, avec une coopérative, etc., quelle que soit la configuration.
Tout à fait. En plus, aujourd'hui, il y a même des marketplaces, des marchés, des sites où l'on peut, enfin, en Algérie, je ne sais pas, mais où l'on peut vendre et... acheter des déchets. Donc, par exemple, cet industriel-là a besoin de ce déchet-là. D'accord. Il va le retrouver chez quelqu'un d'autre, justement, pour revenir à la digitalisation.
Une espèce de bourse.
Exactement. Oui, une bourse des déchets. On devrait aussi appeler ça les ressources et arrêter d'utiliser le mot déchet, au final, qui est péjoratif. Du coup, donc,
ne te fâche pas, Lina Mazoud. Ah, d'accord. S'il vous plaît, ne la fâchez pas. Ne dites plus déchets.
Et donc, j'aimerais revenir vers l'Omaïssa, qui, on a parlé de sensibilisation, justement, on parle de tri des déchets, vous faites des campagnes de nettoyage.
Exactement.
Donc, voilà, si tu peux nous développer justement les autres actions que vous faites à l'association.
Exactement. Déjà, pour présenter l'association Félix Artis, elle a été créée en février 2024. Par des jeunes.
C'est tout récent donc.
Oui.
D'accord.
Par un jeune, déjà notre fondateur, il a que 22 ans.
On peut dire son nom, hein. C'est pas Voldemort, hein, c'est pas tabou, on peut dire son nom.
Un dédicace pour Talen et je le remercie vraiment parce que il a eu l'idée déjà, parce qu'il a été déjà.
Et surtout, on a jamais suffisamment d'associations qui œuvrent pour l'environnement.
Exactement, c'est très très important.
Vos campagnes de ramassage, vous les faites comment? Vous les faites où? Est-ce que vous avez besoin d'un coup de main? Vous faites appel à des bénévoles? Ça fonctionne comment?
En fait, en vrai, on travaille aussi en collaboration avec DL Bénévole, l'association DL Bénévole, parce qu'au début, on était débutants, quoi. On cherchait un coup de main et tout.
L'associatif, ça s'apprend comme tout.
Exactement, exactement. Et en plus, elle nous a beaucoup soutenus. Il y a même des APC maintenant, parce que nous, on cherche la visibilité. Il y a même des APC qui nous sollicitent pour faire des campagnes de nettoyage dans des ruelles, même pour la plantation aussi. Quoi encore
Vous faites aussi, vous travaillez avec les enfants de la Lune, les enfants de Lune, pardon.
Oui. On travaille aussi avec les enfants de la Lune.
Alors, on peut rappeler à nos auditeurs ce qu'est un enfant de la Lune.
En fait, c'est les enfants qui, en Algérie, ils disent que les enfants qui sortent pas le matin, voilà. Mais ils ont des problèmes de peau. Donc, ils peuvent pas.
Un peu plus grave que de simples problèmes de peau. Hein. C'est-à-dire que la moindre brûlure peut rapidement se transformer en cancer et ils ne peuvent pas se mouvoir sans une combinaison spéciale, sans des pommades qui coûtent hyper cher, etc. Bref, ils n'ont pas la vie facile, a fortiori dans notre pays.
Oui, c'est pour ça qu'on s'adapte à leur environnement.
Et comment vous les aidez?
On fait les événements le soir.
D'accord.
Le soir, c'est même durant le Ramadan, on a fait beaucoup d'événements l'année passée. Alors iftar, après activité avec les enfants, et ça a beaucoup marché. On a eu beaucoup de retours déjà. Et en plus, on travaille avec beaucoup d'activités avec plusieurs catégories d'enfants. Il n'y a pas que les enfants de la Lune. On essaye, bien sûr, de les sensibiliser, mais de simplifier. Parce que parler à un enfant, ce n'est pas comme un adulte. On essaye de simplifier les termes. Le plus important pour nous, c'est que l'enfant reçoit le message.
Qu'il soit réceptif. Lina.
Exactement. Eh bien, tout à fait. Aujourd'hui, vous avez parlé de visibilité. On est dans la journée mondiale de la radio. Aujourd'hui, comment la radio peut vous aider justement à atteindre cette visibilité?
Et on posera la même question à ta satellite.
Exactement.
En fait, je pense que la radio est le moyen le plus accessible, déjà, pour tout le monde.
Vous dites ça parce que vous êtes ici
Peut-être. Non, parce que même dans les zones isolées,
Effectivement, effectivement.
Il y a la radio.
La radio, c'est à la fois le média de l'immédiateté, mais aussi de la proximité.
Exactement. Et elle est pour tout le monde, pour la classe sociale, n'importe quelle classe sociale ou le niveau d'éducation. Et même pour... elle diffuse toujours les mises à jour. Quand il y a un truc nouveau et tout, c'est important. Et on ne fait pas d'effort pour l'écouter, déjà. Pas quand tu regardes la télé, des fois tu t'ennuies, mais en écoutant la radio, elle est là.
C'est ah, quand il y a un truc bah ça intéressant. C'est, alors, éteignez votre télé, écoutez Médiatique.
Voilà. Exactement.
Fermez les yeux, écoutez Médiatique.
Voilà. Même question pour Tassa Hadid. Comment changer ce mindset qui existait, encore une fois, on en parlait à l'instant, les années 70-80, et qui a disparu. Et là, voilà, ça commence... Mais douga douga.
Oui. Alors, moi, je vais parler sur la manière dont la radio peut participer à sensibiliser, en fait, les gens. Moi, j'ai pas hésité à dire oui à Lina, car moi, je suis parmi les personnes, en fait, qui ont grandi avec la radio. Ma mère écoutait énormément, je vais vous dire, du H24, la radio. Alors, on a été, en fait, sensibilisés sur pas mal de sujets. Où moi je viens d'une région vraiment très loin des villes, etc. Mais on était quand même à jour à certains sujets, à certaines problématiques, etc. qui touchaient notre pays, et tout ça grâce à la radio. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pas hésité en fait de venir ici.
Vous remercie.
Je vous remercie aussi pour votre invitation, et car elle reste quand même parmi les premiers moyens sur lequel on a le toucher direct vers notre société. Car une personne en fait qui travaille à la maison, elle a toujours une radio allumée, une personne qui est en route, elle allume sa radio, etc. Et des fois, sans faire attention, on passe sur une chaîne radio ou bien on écoute une émission sur un sujet important. Et pourquoi pas aujourd'hui,
ce qui permet à la radio de survivre dans un monde où Internet est en train de tout avaler.
Oui.
Ce qui sauve encore une fois notre média, c'est que ça reste écoutable n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quel conditions. Vous êtes optimiste ?
Oui, beaucoup. Je vais dire beaucoup.
Même question ?
Oui, tout à fait. Sinon, je ne serai jamais portée volontaire pour association. Déjà, je cherche le changement.
D'accord. Bien. Lina, tu es optimiste ?
Très, je pense qu'au fil des émissions, les auditeurs ont confirmé cela. Et justement, vu que vous êtes optimiste, si vous aviez un conseil, une action que vous aimeriez...
Voilà, pour les auditeurs qui sont en train de nous écouter, il nous reste à peu près 5-6 minutes d'émission. C'est le moment d'essayer de distiller quelques bonnes pratiques. On commence par Romaïssa.
Pour moi, le plus important, c'est d'agir maintenant pour demain. Et déjà, commencer par l'éducation environnementale pour les enfants, ce qui est très, très important. Et même sensibiliser ce qui est autour de vous par des petites manières qui font vraiment la grande différence. En plus, je pense qu'ensemble, on pourra faire vraiment un changement. Voilà.
T'as ça dit ?
Ouais, c'est très bien. Je pense qu'elle a tout dit. Elle m'a pas laissé un mot.
Il y a quand même suffisamment de thématiques à traiter. Le ramadan arrive, par exemple. C'est peut-être l'occasion de rappeler que, hélas, nous sommes parmi les plus gros gaspilleurs de pain de la planète. Et ça serait bien qu'en 2025, il y ait ce sursaut et qu'on comprenne que pour une famille trois personnes, on n'est pas obligé d'acheter 10 baguettes qui vont se retrouver à la poubelle le lendemain. Exactement. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de très simple qui part d'un bon sens, j'allais dire, prosaïque, voilà, c'est une évidence même, mais ça a du mal parce que culturellement, il faut que la table soit bien garnie, etc., etc. Comment est-ce qu'on pourrait changer ça, Lina, par exemple ? Si tu avais, Khatem Souleyman, comment tu changerais ce mindset ?
Moi, je taxerais les gens, je serais beaucoup plus sévère sur la
table. Oula, bon.
Au final,
ça a jeté un froid autour de la table.
Pour être honnête, non, franchement, faire de la sensibilisation aujourd'hui, je pense qu'on est tous là ici pour ça. Sensibiliser les gens et vraiment leur montrer des images qui pourraient justement être la conséquence ou bien peut-être aujourd'hui, je pense à l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle pourrait justement nous projeter, nous donner une image de qu'est-ce que serait la planète dans 10 ans, je pense vraiment sur le 10 ans en avant, à avoir une image qui va peut-être choquer les gens.
Il y a une grande présentatrice de l'Hexagone de météo qui s'appelle Catherine Laborde et qui avait fait une simulation de météo il y a quelques années pour voir quelles seraient les températures dans le futur. Et c'est absolument terrifiant.
Choquant, oui.
C'est du 50 degrés, du 52 degrés, c'est les pôles qui fondent, c'est... Contrairement à ce que prétendent certains, le réchauffement climatique est une réalité prouvée par différents rapports, notamment ceux du GIEC. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose de superfétatoire qu'on peut balayer sous le tapis.
Exactement, et d'ailleurs chaque année on se dit, cette année on a eu l'été le plus chaud de l'histoire, et puis chaque année ça va de pire en pire. On a aussi les saisons qui sont décalées aujourd'hui, l'hiver il est un peu plus décalé avant.
On trouve uniquement deux saisons dans l'année, on va pas parler d'hiver, mais peut-être du printemps, et avec un été vraiment très brûlant.
Exactement, voilà. Et un automne presque inexistant. Donc c'est une réalité, on n'est pas en train de spéculer ou bien de dire que c'est, il y a des gens qui disent que c'est économique, bon peut-être, mais on revient à la
décision. L'un n'empêche pas l'autre, hein. D'ailleurs je conseille à tout le monde de lire le rapport du GIEC parce qu'il est vraiment argumenté, c'est vraiment passionnant et terrifiant à la fois, et c'est avec chiffres à l'appui, c'est-à-dire que contrairement à ce que disent certains climato-sceptiques, voilà.
Très bien.
On peut pas contredire quelque chose.
Exactement.
Qui a été testé et approuvé.
Testé et approuvé. Donc, comme on disait, sensibilisation, la radio.
Romaïssa?
Non, je voulais juste dire un truc. Si vous voulez peut-être nous rejoindre ou peut-être être avec nous prochainement, vous pouvez juste nous suivre sur Instagram, Félicartis El Jazair. Participer à nos activités.
D'accord.
Et
donc
même...
si jamais vous organisez une campagne de nettoiement, c'est ouvert à tout le monde.
Oui, oui.
On s'inscrit, on vient.
Exactement, exactement. C'est juste, il faut s'inscrire via un document. Juste pour gérer le nombre, bien sûr.
Pour connaître les gens, pour les identifier, ce qui est tout à fait normal.
Et après, bienvenue à tout le monde. Voilà.
Ben, on arrive déjà à la fin de cette émission passionnante. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir répondu à l'invitation de Médiatique. Quant à toi, qui m'écoute et que je tutoie, si tu vagabondes sur les ondes, ramène du monde et à jeudi prochain.
People always told me, be careful what you
Radio Startup, avec un concept innovant. Vous avez une actualité liée au TIC que vous aimeriez développer? Rien de plus simple. Il vous suffit de nous écrire sur la page Facebook de l'émission Médiatique-6-Alger-Chin-3. Médiatique, c'est avant tout votre émission et notre porte vous est toujours ouverte.
Nights don't ever sleep, so this life's always with me. The ice inside my veins will never bleed. My, my. Every time you try to fix me, I know you'll never find that missing piece. When you cry and say you miss me, I'll lie and tell you that I'll never leave. But all I sacrificed your love for more of the night. I tried to put up a fight. Can't tie me down. I don't wanna sacrifice for your love. I tried. I don't wanna sacrifice. It's the end, cause life is still worth living. Yeah, this life is still worth living. I can break you down and pick you up and fuck like we are friends. But don't be catching feelings, don't be out here catching feelings. Cause all I sacrificed your love for more of the night. I tried to put up a fight.
Mambo number 5.
Yeah. Well, I should Number five.